Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. L'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de l'Église a lieu pendant le règne de l'empereur Constantin. Constantin Ier, dit le Grand, empereur romain de 306 à 337 de notre ère. Il est vrai que, dans un premier temps, Constantin désirait mettre fin aux persécutions religieuses qui avaient eu lieu avant son règne et qui, pendant plus de deux siècles, avaient été particulièrement terribles. Mais il subsistait toujours des controverses au sein de l'Église ou au sein de la communauté qui se disait chrétienne. Rappelez-vous, lors du troisième épisode sur l'histoire de l'Église de Dieu, nous avions vu les oppositions lancées contre la doctrine de la Pâque du Nouveau Testament, célébrée le 14e jour du premier mois du calendrier hébreu et défendue par deux ministres de l'Église de Dieu, Polycarpe et Polycrate. Et nous voici maintenant arrivés au début du IVe siècle, près de deux siècles plus tard. L'empereur Constantin veut intervenir à présent dans le débat religieux, au lieu de laisser ces divisions se régler entre elles et chacun de son côté poursuivre son chemin de foi, selon ses propres convictions. Constantin n'avait évidemment lui-même aucune qualification religieuse. C'était un empereur, c'était un homme politique. Il n'était d'ailleurs même pas converti de son vivant. Mis à part, nous est-il dit, peut-être sur son lit de mort, et encore, il se serait fait baptiser. On voit mal comment il aurait pu se faire baptiser sur son lit de mort, puisque, selon l'expression originale du mot baptisé, baptizo en grec signifie immergé dans l'eau. Quoi qu'il en soit, aucun être humain ne saurait décider de ce qui est juste en matière de bien et de mal, en dehors de ce que Dieu a déjà décidé lui-même dans ses commandements et dans les 10 commandements, notamment dans la parole même de Dieu. Constantin n'en a cure. Il fait face à des controverses religieuses. Il décide alors d'accorder ses faveurs impériales à la seule variante romaine, catholique romaine de la foi chrétienne, laquelle s'est révélée être très clairement à l'opposé d'un certain nombre de lois de Dieu. Et de ce fait, Constantin déclenche une nouvelle persécution contre l'Église de Dieu, contre d'autres courants chrétiens, puisque de toute façon, le pouvoir militaire romain est absolu et que les décrets interdisent, sous peine de mort, comme on l'a pu le voir dans les siècles précédents, interdisent une profession de foi chrétienne, et cette fois-ci différente de celle qui a été décidée par le pouvoir impérial romain pour la première fois dans l'histoire. Et pourtant, l'Église de Dieu a tenu bon, conformément à ce que Jésus-Christ avait promis, notre Seigneur, qui a bâti son Église. Il avait dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle, contre l'Église de Dieu. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 34, Matthieu 10, 34, Jésus-Christ avait déjà averti ses disciples. Il leur avait dit, et il nous avertit, nous-mêmes, en ces temps de la fin, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, au contraire. » Et ces paroles se sont avérées vraies au fil des siècles. Les chrétiens ont été persécutés. Les persécutions contre l'Église vont continuer en ce IVe siècle. Elles vont s'intensifier pour un temps sous la domination romaine et en particulier au IIIe siècle sous Dioclétien vers la fin du IIIe siècle, puis sous Constantin au début du IVe siècle de notre ère. Et nous nous souvenons que depuis la disparition des apôtres, eux-mêmes tous persécutés, tous exécutés, peut-être à l'exception de Jean, l'apôtre, il y avait un certain nombre d'empereurs romains qui avaient déjà professé la persécution contre l'Église, l'Église fondée et établie par Jésus, je le rappelle. L'empereur Trajan, par exemple, autorisa une telle campagne de persécution, selon une lettre reçu par un certain Pline, Pline le Jeune, en 111 de notre ère. Pline était un avocat et il était aussi le gouverneur du territoire de la Bithynie et du Pont, le long de la rive sud de la mer Noire, où certains membres de l'Église s'étaient initialement installés, donc en Asie mineure. Et voici un extrait de la lettre de Pline. Il s'adresse à l'empereur Trajan, il lui dit ceci: « J'ai l'habitude, monseigneur, de vous soumettre toutes les questions sur lesquelles je suis dans le doute. Qui peut mieux éclairer mon hésitation ou éclairer mon ignorance? Je n'ai jamais participé à des procès de chrétiens. Je ne sais donc pas quelles infractions il est d'usage de punir ou d'enquêter. Et dans quelle mesure? J'ai observé la procédure suivante. » Donc il dit quelle est son initiative. « J'ai interrogé ceux qui ont avoué pour savoir s'ils étaient chrétiens. Ceux qui ont avoué, je les ai interrogés une deuxième et une troisième fois en les menaçant de punition. Ceux qui ont persisté, écoutez bien, j'ai ordonné leur exécution. » Donc vous dites que vous êtes chrétien, vous insistez, vous êtes mis à mort dans ces conditions. « Car je ne doutais pas que, quelle que soit la nature de leur foi, leur entêtement et leur obstination inflexible méritent certainement d'être punis. » Et voici la réponse de l'empereur Trajan. Il dit ceci, il écrit ceci à Pline: « Tu as observé la procédure appropriée, mon cher Pline, en examinant les cas de ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens, car il n'est pas possible d'établir une règle générale qui serve de référence fixe. » Autrement dit, ton initiative était excellente. Il ne faut pas les rechercher. S'ils sont dénoncés et reconnus coupables, ils doivent être punis, avec cette réserve que quiconque nie être chrétien et le prouve réellement, c'est-à-dire en adorant nos dieux, les dieux romains. Même s'il était soupçonné dans le passé, il obtiendra le pardon par la repentance. » Donc, les choses sont très claires. Ou vous dites que vous êtes chrétien et à ce moment-là vous êtes exécuté, ou vous prouvez que vous n'êtes pas chrétien en adorant les dieux romains, une apostasie, et vous survivez. Donc, à qui faut-il obéir? La Bible le dit clairement, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ici, on voit qu'au début du IIe siècle, il y a déjà des persécutions mortelles dirigées contre les chrétiens peu après la disparition de tous les apôtres dans cette région d'Asie mineure. Et cette persécution va continuer, mais l'Église de Dieu est restée ferme et fidèle. Plus tard, il y aura d'autres persécutions. D'après notamment l'historien Eusèbe de Césarée, il écrit ceci dans son Histoire ecclésiastique, livre 8, chapitre 2. Il écrit: « C'était dans la 19e année du règne de Dioclétien, autrement dit en 303 de notre ère, alors que la fête de la Passion du Sauveur était proche et que des édits royaux furent publiés partout, ordonnant quoi ? Que les églises soient rasées. » Donc les églises sont détruites. Les bâtiments sont détruits. Les écritures sont détruites par le feu, ordonnant que ceux qui occupaient des places d'honneur soient dégradés et que les domestiques, s'ils persistaient dans la profession de christianisme, soient privés de liberté. Donc vous étiez soit mis à mort, soit emprisonné. Avec quel destin, on peut se le demander. Plus loin, au chapitre 5, nous lisons l'histoire d'un homme dont le nom n'est pas révélé. Mais voilà ce que Eusèbe écrit. Aussitôt après la publication du décret contre les églises de Nicomédie, alors Nicomédie, c'est une église d'Asie mineure qui se trouvait non loin de Constantinople, donc en Asie mineure, vers le nord. Un certain homme, non pas obscur, mais très honoré, de dignité temporelle distinguée, animé d'un zèle pour Dieu, animé d'une foi ardente, saisit l'édit tel qu'il avait été affiché ouvertement et publiquement. Il le déchira comme une chose profane et impie, et cela se fit alors que deux des souverains se trouvaient dans la même ville. Mais cet homme, après s'être distingué de cette façon, souffrit les choses qui devaient suivre une telle audace et garda son esprit joyeux et serein jusqu'à la mort. Il restait donc encore des hommes fidèles, malgré la terrible persécution qui s'ensuivit. Et pendant tout ce temps, il y avait déjà un certain Constantin, présent à Nicomédie, près de Constantinople, parmi tous ceux qui étaient formés à la cour de l'empereur Dioclétien. pendant cette persécution de l'an 303. Et Constantin, qui est donc là, qui voit ces choses, devient un grand général. Après de nombreuses victoires sur le champ de bataille, il est finalement proclamé empereur par ses troupes, donc d'abord de façon illégitime, en l'an 306, puis il est confirmé dans sa fonction impériale, en fait comme co-empereur avec un autre empereur, en l'an 310, 4 ans plus tard. Mais il lui faudra quand même plus de 14 ans pour se débarrasser d'autres prétendants à la couronne impériale, des usurpateurs comme par exemple Maxence, Licinius. Vous savez, l'histoire des régimes impériaux romains à cette époque est extrêmement compliquée. En effet, le titre d'empereur, d'ailleurs, n'est pas héréditaire. Donc il y a beaucoup de prétendants. Il y a beaucoup d'usurpateurs, c'est-à-dire des dictateurs plus ou moins autoproclamés ou proclamés par leurs troupes, qui prennent le pouvoir par la force. Il y a des co-empereurs, il y a des tétrarques, des gens qui gouvernent en compagnie d'autres souverains. Et tous, d'ailleurs, sont plus ou moins usurpateurs ou usurpés, ou les deux à la fois. Et on voit au final que c'est la foire d'empoigne dans le statut impérial. C'est la loi du plus fort qui prévaut, c'est intéressant, avec toutes les guerres internes, les campagnes militaires à n'en plus finir, règne après règne, usurpation après usurpation. Et plus tard, en 312, Constantin envahit toute l'Italie pour en chasser son opposant principal, Maxence, qui pourtant, à l'époque, aurait eu, d'après les témoignages historiques, plus de troupes que Constantin. Certains disent deux fois plus, certains disent trois fois plus, quatre fois plus, même jusqu'à dix fois plus. Quoi qu'il en soit, sur le chemin de Rome, pendant la nuit précédant une bataille célèbre, la bataille du pont Milvius, Constantin prétend avoir eu une vision. Une vision qui lui serait apparue sous la forme d'un symbole qu'il aurait vu dans le ciel, formé par la conjonction de deux lettres grecques, la lettre chi et la lettre rho. Alors chi, c'est un grand X, et la lettre rho, c'est un grand P. Quand vous superposez les deux, vous avez une forme très particulière qui ressemblerait peut-être à un homme, on ne sait pas. Mais ce sont les deux lettres, les deux premières lettres du mot Christ, est-il dit par les historiens. Constantin aurait vu ces choses et aurait entendu en même temps une phrase qui aurait été prononcée en grec. Et cette phrase dit ceci, « En tuto vica ».« En tuto vica », cela veut dire en français « par ceci ou par ce signe, tu vaincras ».« Par ce signe, tu vaincras ». Et de nos jours, on retrouve les trois initiales des trois premiers mots de la traduction latine de cette phrase, si vous regardez les chasubles des évêques, des prêtres catholiques, des livres de messe, ces trois initiales IHS veulent dire exactement la même chose, mais en latin. In hoc signo, c'est-à-dire par ce signe, la phrase étant in hoc signo vinces. Et donc par ce signe, tu vaincras. Et à cette époque de sa vie, Constantin était pourtant païen. Il croyait au dieu romain, mais malgré tout, il décide d'apposer ce signe, le chi et le rho, sur les boucliers de ses troupes. Après quoi, Constantin va effectivement remporter la bataille du pont Milvius, et il va défaire son adversaire Maxence. Cette vision du qui et du rho, cette vision du signe, est rapportée par un archevêque, Eusèbe, archevêque de Césarée, qui atteste l'avoir du vivant de Constantin, qui atteste l'avoir apprise de la bouche même de l'empereur. Donc je le disais, sur le plan religieux, Constantin était encore un adorateur des dieux romains. Il était païen, il adorait les dieux de Rome, y compris le dieu du soleil, dont le jour d'adoration se trouvait être le dimanche. Et ce n'est que bien plus tard, juste avant sa mort, qu'il se serait donc, comme je le disais, qu'il se serait converti au christianisme. Un christianisme qu'il avait lui-même contribué à façonner, à changer. Il aurait un christianisme qui était très différent du christianisme de l'Église primitive du Nouveau Testament. Peut-être avez-vous assisté il y a quelques jours à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et sur la chasuble de l'archevêque de Paris, l'archevêque Ulrich, qui dirigeait cette cérémonie, on voit à l'arrière, si mes souvenirs sont bons, ce symbole inscrit, ce symbole des troupes impériales, donc le qui et le ro, les troupes impériales de Constantin. On peut se demander d'ailleurs pourquoi, sur les livres de messe, on a ces deux lettres, et pourquoi Constantin a-t-il mis en exergue ces deux lettres? Pourquoi deux lettres? Et pourquoi pas toutes les lettres du mot Christ? Quelle est la signification de ces deux lettres? Est-il possible que cette signification soit différente? Et qu'en est-il du symbole global qui est une superposition et qui ressemble à une sorte d'être humain, quand on regarde bien ce symbole? Quelque chose qui rappelle un peu les symboles des civilisations de Carthage, notamment, où on retrouve ce genre de symbole, à quelque chose près. Mais si Constantin a vaincu l'empereur usurpateur Maxence dans cette bataille, il a aussi vaincu d'autres ennemis. Quant à l'Église romaine, il faut bien reconnaître qu'elle aussi a vaincu, par Constantin, par son signe, elle a vaincu beaucoup d'opposants dans la doctrine chrétienne. Et comme nous allons le voir, c'est bien la doctrine de cette Église catholique romaine qui va prévaloir, qui va triompher dans une certaine mesure de ses adversaires. Et parmi ses adversaires se trouvait l'Église de Dieu, l'Église que Jésus-Christ a bâtie et que le pouvoir romain a persécutée au fil des siècles, mais qui ne serait jamais détruite, avait promis Jésus-Christ. Dans un premier temps, il est vrai que Constantin mit fin à toutes les persécutions ultérieures contre les chrétiens. Oui, mais tout au moins, il faut bien le reconnaître, de ceux que lui considérait comme chrétiens. Et c'est une distinction importante. Et c'est donc en 313 que l'empereur fait publier l'édit de Milan, la ville italienne de Milan, lequel donne au christianisme pour la première fois un statut romain légal. Donc l'Église est maintenant reconnue, sauf que c'est l'Église romaine catholique. Mais il faudra quand même attendre l'an 380 de notre ère, avec l'empereur Théodose Ier, pour que le christianisme devienne finalement la religion officielle de l'Empire romain, qui cette fois-ci élimine les anciens dieux romains, en apparence. Un an plus tard, en 314, Constantin convoque en Gaule transalpine, en la ville d'Arles, les évêques des provinces occidentales de l'Empire. Il semble en effet qu'un schisme ait divisé l'Église romaine en Afrique, et donc il y a des divergences doctrinales qui se font jour. Donc encore une fois, Constantin veut résoudre pacifiquement le débat, il veut résoudre ces questions doctrinales religieuses lui-même. Et clairement, une fois de plus, je le confirme, il désire s'immiscer, nous pouvons le voir, dans les questions religieuses concernant la doctrine chrétienne. Ce n'est pas sa responsabilité, mais il le fait. Et une décennie plus tard, plus de 300 évêques de l'Église catholique romaine se rassemblent sous la présidence impériale de Constantin à Nicée en 325. Et donc c'est le fameux concile de Nicée. Alors, durant ce concile, on y discute bien sûr d'un certain nombre de questions théologiques. Et l'une des décisions prises fut de ne plus célébrer la Pâque des Juifs. Il y avait des chrétiens qui continuaient, évidemment. Dans l'Église de Dieu, la Pâque n'a jamais été supprimée. La Pâque de Christ, la Pâque de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, avec les nouveaux symboles du pain et du vin. C'est un commandement de Christ lui-même, qu'il fallait donc continuer à observer ces choses à la date commandée par Dieu. Mais le concile de Nicée institue un remplacement de la fête biblique de la Pâque par une célébration humaine, la célébration des Pâques au pluriel. Gardez bien ce mot en mémoire, remplacement, remplacer quelque chose. J'y reviendrai dans un instant. Mais voici le commentaire impérial de Constantin, rapporté par l'historien Théodoré, décédé en 458. Constantin écrivit ceci sur son acte. Il fut d'abord déclaré inconvenant de suivre la coutume des Juifs dans la célébration de cette fête sainte, car leurs mains ayant été tachées par le crime, l'esprit, est-il écrit, de ces misérables hommes, est nécessairement aveuglé. En rejetant leur coutume, nous en établissons et nous en transmettons au siècle suivant une qui est plus raisonnable. C'est assez hallucinant, la façon dont il parle des Juifs et dont il traite les Juifs. Il continue en disant « N'ayons donc rien de commun avec les Juifs, qui sont nos adversaires ?» Ah ben là, voilà la raison. Ce sont ses adversaires politiques et religieux. Marchons d'un commun accord dans cette voie, mes très honorés frères, en évitant soigneusement tout contact avec cette mauvaise voie. Ils se vantent que sans leurs instructions, nous ne pourrions pas commémorer convenablement la fête. C'est exact, ils ont raison. C'est le comble de l'absurdité, malgré tout, dit-il. Comment pourraient-ils avoir des opinions justes sur un point, eux qui, après avoir atteint la mort du Seigneur, qui leur met leur responsabilité complète sur eux, sont devenus fous et guidés non par la saine raison, mais par une passion déchaînée partout où leur folie innée les entraîne. Et là, on voit la colère, on voit littéralement la haine contre les Juifs se faire jour. En plus de ça, nous voyons un renversement complet d'une loi pourtant édictée par Dieu dans le livre du Lévitique, chapitre 23, confirmée par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Une des fêtes de Dieu a été remplacée par une célébration païenne, carrément. Et c'est une des caractéristiques fondamentales des actes de l'Église catholique romaine, avec le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange d'une doctrine chrétienne biblique avec une doctrine païenne, un jour païen, un dieu païen. On mélange le tout et on lui donne une apparence chrétienne. Conséquence, les dates bibliques du calendrier hébreu sont remplacées par des dates de fêtes païennes choisies dans le calendrier romain. Un calendrier païen. En fait, ce à quoi nous assistons, c'est une couverture doctrinale complète de tout ce qui concerne le christianisme par de nouvelles fêtes, par de nouvelles doctrines, avec une apparence de christianisme. Le mot « remplacement » est donc très symbolique de la doctrine catholique. D'ailleurs, le mot latin « vicarius » désigne un remplaçant, c'est-à-dire celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. De vicarius, nous obtenons le mot vicaire. Et nous savons que le pape est souvent appelé vicarius Christi, le vicaire du Christ, celui qui remplace le Christ. Il y a une différence subtile entre le fait de remplacer et le fait de représenter. Celui qui remplace, c'est le vicaire. Mais le mot lieutenant, par exemple, c'est celui qui représente, ou le mot ambassadeur. Un lieutenant, je prends l'exemple ici au Texas, M. Dan Patrick est le lieutenant-gouverneur du Texas. Il est le lieutenant du gouverneur du Texas, M. Greg Abbott, mais il n'est pas le gouverneur. Le gouverneur, c'est M. Greg Abbott. Dans l'armée, par exemple, un lieutenant, c'est le second du capitaine. Il représente le capitaine lorsqu'il est absent. Il ne le remplace pas, sauf bien sûr si d'aventure le capitaine est tué au combat sur le champ de bataille. À ce moment-là, le lieutenant prend sa place. Mais tant qu'il est vivant, il ne le remplace pas. La représentation est temporaire, le remplacement est définitif. En France, par exemple, dans l'histoire des rois de France, le roi de France était souvent appelé le lieutenant du Christ. Le lieutenant du Christ. C'était l'un de ses titres. Il était censé représenter le Christ. Comment ? Par son meilleur exemple national, devant tous les Français. Il était censé adopter le comportement du Christ. Il n'était pas censé le remplacer. Ce n'était pas son rôle. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, reportons-nous-y, l'apôtre Paul qualifie les chrétiens, il leur donne un titre, il leur donne le titre d'ambassadeur. Lisons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 20. Il écrit ceci aux Corinthiens. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous marchons avec Dieu, nous marchons avec Christ, nous sommes ses ambassadeurs. Nous représentons Christ. » Les chrétiens de nos jours qui obéissent au commandement de Dieu sont donc appelés les ambassadeurs pour Christ. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction d'un ambassadeur? C'est de représenter fidèlement un chef d'État, un roi, un président, mais sans prendre les décisions à sa place, sans prendre de décisions avant d'en référer à sa hiérarchie. Un ambassadeur ne remplace pas le chef d'État. Il ne modifie pas le message qu'il a le devoir de transmettre, et parfois même de transmettre jusqu'au péril de sa vie. Je crois que cet exemple de l'ambassadeur illustre bien, montre mieux encore, la différence entre les deux agissements, d'un côté remplacé et de l'autre côté représenté. Revenons maintenant à l'empereur Constantin. Inutile de rappeler que ses commentaires sur les Juifs, sur la foi juive, sont extrêmement durs. Et par conséquent, appelons les choses telles qu'elles sont, c'est de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme impacte directement la foi chrétienne transmise par Christ et transmise par les apôtres dès la fondation de l'Église de Dieu, basée elle aussi sur le respect du sabbat, non pas du sabbat des Juifs, mais du sabbat de Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Et celui également... basé sur les fêtes bibliques de Dieu, qui appartiennent à Dieu. Mais Constantin, l'empereur romain, va aller encore plus loin. Toujours selon les commentaires de Théodore, il décide ceci. Pour résumer en peu de mots, par le jugement unanime de tous, il a été décidé que la très sainte fête des Pâques, pluriel, les Pâques, serait célébrée partout le même jour, et il ne convient pas qu'il y ait une division dans une chose aussi sainte. Autrement dit, il n'y a qu'une seule foi chrétienne maintenant qui prévaut, la foi catholique romaine, les Pâques, et donc la Pâque des Juifs est totalement, qui est en fait la Pâque de Dieu, est totalement rejetée par le pouvoir romain et réprimée par le pouvoir militaire romain. Je rappelle que c'est l'empereur de Rome qui parle, c'est lui qui s'exprime, la plus haute autorité en la matière en cet empire. Il semble donc que l'Église romaine et gagner la bataille physique et politique. L'Église de Dieu est reléguée, quant à elle, à l'état de souffrance dans la persécution. Il n'y a plus de liberté religieuse au sein du christianisme. Nous avons vu que cela était déjà le cas dans les siècles précédents, qui ont suivi la disparition des apôtres. Mais la bataille spirituelle, elle continue. Et elle continue en ce quatrième siècle de notre ère, et l'Église de Dieu va continuer sa mission au cours des âges, au cours des décennies, au cours des siècles. En fait, Constantin n'en était pas à son coup d'essai au concile de Nicée en 325. Déjà, 4 ans auparavant, en 321, il va mettre en œuvre une décision encore plus significative. Il l'avait déjà fait. Cette décision touchait directement au cœur des lois de Dieu, aux 10 commandements, et notamment au 4e commandement, selon Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5, donc les 10 commandements, le décalogue. En fait, en 321, Constantin décrète que maintenant, eh bien, c'est le dimanche qui sera le jour de repos romain. Et un théologien protestant, Philippe Schaff, dans son ouvrage intitulé « L'histoire de l'Église chrétienne », commente les décisions de Constantin, et il écrit ceci. Le vénérable jour du soleil, donc le dimanche, un jour païen, que les magistrats, dit Constantin, et les habitants des villes se reposent. et que tous les ateliers soient fermés. À la campagne, cependant, les personnes qui se consacrent à l'agriculture peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités, car il arrive souvent qu'un autre jour ne soit pas aussi approprié pour semer les céréales ou planter la vigne. De peur qu'en négligeant le moment approprié pour de telles opérations, la générosité du ciel ne soit perdue. Donc, cette décision de Constantin a eu des effets de très grande portée. Non seulement la loi de Dieu était rejetée, mais les gens supposés être chrétiens, que faisaient-ils ? Ils commençaient à célébrer un jour païen, le dimanche, en l'honneur d'un dieu païen, le dieu soleil, au lieu du sabbat du septième jour, le véritable jour de repos ordonné par Dieu dans sa parole et pendant lequel il est demandé à toute l'humanité d'adorer et d'honorer Dieu, son créateur. Dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 5, ce sont les deux chapitres où nous retrouvons les 10 commandements. Et sans surprise, cette décision de Constantin sera confirmée quelques décennies après sa mort, au cours du concile suivant, le concile de Laodicée, en 365, qui déclare ceci dans son 29e canon. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, confirmation, mais ils doivent travailler ce jour-là, en honorant plutôt le jour du Seigneur, donc le dimanche, et s'ils le peuvent, se reposer alors en tant que chrétien. Mais si quelqu'un se révèle judaïsant, autrement dit faisant le contraire, se reposant le samedi et travaillant le dimanche, qu'il soit anathème par le Christ. Et là, on voit très clairement l'antisémitisme qui motive encore une fois cette décision. Enfin quoi, nous sommes tous pécheurs. Le péché de la mort du Christ n'est pas exclusivement sur les Juifs. Ce sont des Juifs d'abord, premièrement, qui ont poussé le pouvoir romain à mettre à mort Christ. Nous sommes tous responsables de la mort et des souffrances de Christ. Christ est mort pour nous, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de notre Père éternel, dans le palais céleste du trône divin, et il dirige son Église. Le peuple juif n'est pas plus coupable que Constantin. Le peuple juif n'est pas plus coupable que les apôtres, ou que chacun d'entre nous, ou que chaque être humain ayant jamais vécu. Christ est mort pour tous. C'était une décision avant même la création du monde, nous est-il dit dans la Bible. Le peuple juif a subi la persécution, et le peuple chrétien de même. Christ est mort, crucifié, pour payer l'amende du péché de toute l'humanité, y compris ceux qui sont morts sans même avoir jamais entendu parler du nom de Christ, mais qui un jour seront ressuscités et qui apprendront à connaître Dieu, à connaître Christ et le destin merveilleux de l'humanité. Dieu désire en effet être réconcilié avec tous, avec toute sa création, toute l'humanité, sans exception. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il souhaite. Il ne force pas, mais il voudrait que nous soyons tous réconciliés avec lui, et c'est son plan merveilleux, donc dans sa future famille divine, pour l'éternité. Alors après le concile de Laodicée en 365, nombreux sont ceux qui décidèrent de suivre les enseignements des évêques catholiques romains, par crainte de l'excommunication, par crainte de l'ostracisme social grandissant, un phénomène que nous connaissons bien aujourd'hui, quand on considère par exemple l'attitude particulière qui prévaut dans le monde universitaire. Le monde universitaire est décidé depuis très longtemps à rejeter le récit biblique comme étant un récit mythique. Mais de quel droit ? De quel droit ? De même, de quel droit les ecclésiastiques Des ecclésiastiques ont-ils rejeté la loi de Dieu de la Bible, et notamment le quatrième commandement qui nous enjoint à nous reposer le jour du sabbat et pas le jour du dimanche. Le jour du dimanche, nous faisons ce que nous voulons, nous nous reposons ou nous travaillons, mais le jour du sabbat, le samedi, c'est le jour commandé par Dieu pour nous consacrer à Dieu, pour nous consacrer à notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs. Ainsi, dès le IVe siècle de notre ère, une grande partie du monde chrétien naissant, une écrasante majorité, va suivre tous ces décrets falsifiés de la doctrine chrétienne. Toutefois, un petit reste n'a pas changé ses croyances sur le jour du sabbat, a continué fidèlement à suivre les commandements, à observer la Pâque de Christ pour en venir finalement à rejeter les autres croyances. Mais je le répète, l'immense majorité avait décidé cette fois-ci maintenant d'assister à la messe le dimanche. Et bien que les persécutions contre le sabbat qui s'intensifiaient, donc les membres de l'Église de Dieu ont tenu bon. Ils recherchaient naturellement, malgré tout, de meilleurs horizons. Ils voyaient bien qu'étant persécutés, ils ne pouvaient pas rester au même endroit. Et donc, les chrétiens vont migrer plutôt vers l'ouest. Nous avons vu qu'ils étaient en Asie mineure, dans le nord de l'Asie mineure, pour la plupart, ou autour de la mer Noire, dans certains établissements, dans certaines congrégations. Ils vont migrer vers l'ouest, dans les Balkans, en Europe de l'Est. Mais c'est un récit que nous verrons dans un prochain épisode de cette série sur l'histoire de l'Église de Dieu. Mais revenons-en sur maintenant la pratique de l'immense majorité des chrétiens qui vont à l'Église le dimanche, semaine après semaine, et qui sont choqués d'apprendre que certains chrétiens observent le samedi. Il y a de quoi l'être. La pratique majoritaire n'est-elle pas d'aller à la messe le dimanche pour les chrétiens, ou qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient protestants, tout simplement dans les congrégations protestantes. Pourquoi certains chrétiens observent le samedi, le jour du sabbat? Nous avons vu que la Bible, la parole de Dieu, déclare qu'il faut observer le sabbat le septième jour, c'est-à-dire précisément le samedi, et non pas le dimanche, comme on voudrait nous le faire croire. Quand vous regardez un calendrier, ou un agenda européen, en France, en Espagne, en Italie, et ainsi de suite, effectivement, les semaines commencent le lundi, qui serait ainsi le premier jour de la semaine. Et c'est particulièrement trompeur, c'est particulièrement frappant. Il est pourtant clair, d'après la Bible, que Jésus observait le sabbat le samedi, le septième jour de la semaine, et que ses apôtres ont continué à faire de même après sa mort. Et ceux qui défendent le dimanche au sein du christianisme traditionnel essayent souvent de faire remonter l'observance de ces jours aux apôtres, en disant que c'est ce qu'ils voulaient. Ils doivent bien reconnaître qu'il n'existe aucun passage biblique qui leur permet d'étayer ce changement du samedi au dimanche. Il n'y a pas le moindre passage dans les Écritures saintes indiquant que les apôtres auraient dit de ne plus observer le sabbat le samedi. Pour quelle raison et de quel droit? Encore une fois, le christianisme traditionnel a-t-il décidé, il y a maintenant déjà bien longtemps, de se mettre à observer le jour du repos et le jour de culte le dimanche, le premier jour de la semaine, et non le septième? Plusieurs raisons à cela, plusieurs facteurs clés. Premièrement, la prétendue autorité de l'Église officielle majoritaire depuis l'époque de la Rome impériale, décidée à ignorer certains principes bibliques. Deuxièmement, l'influence des religions païennes de l'Antiquité gréco-romaine qui rendait un culte au soleil le dimanche et qui, comme nous l'avons vu, via des empereurs romains, ont finalement façonné la religion chrétienne de force. Et puis troisièmement, ce sentiment terrible que nous avons vu poindre dans les écrits de Constantin ainsi que dans le canon de Laodicée plus tard, influencé par les docteurs de l'Église romaine, un antisémitisme évident, nullement voilé, quand il fait par exemple mention du verbe judaïser pour qualifier qui plus est un commandement de Dieu que les Juifs observaient, donc que les chrétiens devaient observer comme tout être humain. L'Église romaine a revendiqué, dans une audace incroyable, le droit de modifier certains principes bibliques, certaines décisions de Dieu, aussi incroyable que cela puisse paraître. L'Encyclopédie catholique, à la rubrique « Dimanche », mentionne qu'un certain Césaire d'Arles mit également l'accent sur cet enseignement au VIe siècle. On peut lire dans la rubrique sur les 10 commandements, dans cette encyclopédie, ces mots. En revanche, l'Église, après avoir transféré le jour du repos, le sabbat juif, au septième jour de la semaine, ou septième jour de la semaine, au premier, premier jour de la semaine, dimanche, fille du troisième commandement, donc celui que la Bible classe quatrième, un commandement se référant au dimanche en tant que jour devant être sanctifié comme jour du Seigneur. Donc voilà un autre témoin qui souligne que le culte du dimanche fut instauré du fait de la prétendue autorité détenue par l'Église romaine, qui de fait se place au-dessus de Dieu, au-dessus des décisions de Dieu, pour modifier un principe biblique, un principe de la parole de Dieu, parole de vérité, la fondation du christianisme. Et pourtant, nous savons que la Bible, la parole de vérité, est scellée. Elle est clôturée. Il nous est même dit qu'il ne faut rien y ajouter. Et donc, il ne faut rien en retrancher. Contrevenir à ces instructions divines, c'est extrêmement grave. Alors là encore, les autorités ecclésiastiques traditionnelles prétendent que c'est ce que les apôtres souhaitaient. Mais ils ne peuvent pas le prouver. Certainement pas. Et pour cause. En fait, tout devient beaucoup plus clair quand enfin plusieurs auteurs catholiques ont finalement avoué, clairement expliqué que leurs offices et leurs cultes dominicaux ne s'appuient pas sur les enseignements bibliques, mais s'appuient sur l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire l'autorité de l'Église catholique romaine. Le doute n'est plus permis. Ce sont des commandements d'hommes, ce ne sont pas des commandements de Dieu, ce sont des agissements que le Christ a clairement condamnés. On a pu lire, par exemple, dans l'édition américaine du Virginien catholique, en 1947, les mots suivants. « Nous croyons tous en bien des choses en matière de religion qui ne se trouvent pas dans la Bible. » Tiens donc. Par exemple, nulle part dans la Bible, il n'est écrit que le Christ ou les apôtres aient ordonné qu'on observe le dimanche au lieu du samedi. Ah, c'est un aveu. Nous avons le commandement divin transmis par Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire le septième jour de la semaine, le samedi. À présent, est-il écrit, la plupart des chrétiens observent le dimanche, car cela nous a été révélé par l'Église, indépendamment de la Bible. Alors là, nous voyons clairement que selon la croyance romaine, l'autorité ecclésiastique est supérieure à la Bible. Autrement dit, supérieure à Dieu, à ce que Dieu a déclaré. L'autorité de l'homme deviendrait supérieure à l'autorité de Dieu. Et de quel droit? Pourtant, Dieu, dans ses lois, dans ses décisions suprêmes, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, comme demain et éternellement. Nous verrons le passage qui le déclare. Un certain théologien catholique très influent, Thomas d'Aquin, a écrit ceci. Dans la nouvelle loi, l'observance du jour du Seigneur a remplacé celle du sabbat, non en vertu du précepte, mais par l'institution de l'Église et selon la coutume du peuple chrétien. Confirmation. Donc ces quelques exemples nous montrent que le sabbat n'a pas été transféré au dimanche par Christ ou par les apôtres, mais il l'a été par des individus, par ceux qui se sont arrogés l'autorité hallucinante de modifier les écrits bibliques. Ce qui, bien entendu, nous le savons, est formellement interdit. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, c'est là qu'il est déclaré ce que je venais d'annoncer. Dieu change-t-il ? Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Et dans les derniers versets de la Bible, il est déclaré ceci dans Apocalypse, chapitre 22 et le verset 18. Apocalypse, donc ce sont les tout derniers versets de la Bible. Je crois les avoir déjà cités dans un sermon précédent. Christ parle, il dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Et ainsi se termine et se clôture le récit, est clôturé le récit de la Bible par Jésus-Christ lui-même. Comme nous l'avons vu, Constantin fut donc le premier empereur romain prétendument chrétien, qui s'est immiscé dans la religion chrétienne qui plus est. Et bien qu'il se soit opposé à la persécution des chrétiens dans un premier temps, il semble qu'il ait fait plus que ses prédécesseurs pour introduire le culte du Dieu Soleil, culte païen au sein du christianisme. L'historien Paul Johnson, dans son Histoire du christianisme, a écrit, entre autres, à propos de l'influence de Constantin, il écrit ceci: « Il est pratiquement certain que Constantin adorait Mithra. » Alors, qu'est-ce que Mithra ? C'est le dieu soleil. Et, dit-il, l'arche triomphale qu'il fit construire après sa conversion au christianisme, le fut en l'honneur de qui ? En l'honneur de Dieu ? En l'honneur de Jésus ? Non, pas du tout. En l'honneur du dieu soleil, ou du dieu soleil invaincu, Sol Invictus, Constantin ne cessa jamais d'adorer le soleil, qu'il continua de représenter sur les pièces de monnaie qu'il fit frapper, entouré de rayons de soleil. Il fit du jour du soleil le dimanche, hein, Sunday en anglais, c'est le jour du soleil, Sonntag en allemand, c'est le jour du soleil, même chose, un jour de repos, fermant donc ce jour-là les tribunaux, interdisant tout travail, donc c'est le pouvoir romain qui le fait, sauf les tâches agricoles. Donc un décret royal intimant les gens de se reposer et de se rendre à l'église le dimanche, au lieu du samedi. Cela fut donc publié par l'empereur romain, adorateur du soleil. Donc imaginez la situation. À cause de Constantin, les chrétiens convertis dans l'église romaine observent donc désormais maintenant le jour de culte des adorateurs romains du dieu Mithra. C'est le même jour et c'est le même symbole, le dieu soleil. Donc voilà bien un exemple flagrant de l'influence du paganisme sur les pratiques chrétiennes. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, un mélange opportuniste de deux croyances souvent opposées, une croyance biblique mélangée à une croyance païenne. Donc les chrétiens et catholiques romains s'assemblaient donc désormais le jour vénéré du soleil. Et ces chrétiens devinrent si confus au début que sous le règne de l'empereur Julien, d'après Paul Johnson, il nous est dit que l'évêque de Troyes dit à Julien qu'il avait toujours en secret adoré le soleil. Il l'avoue. Le christianisme revêtit alors un aspect du culte païen du soleil qui se perpétue encore de nos jours à cause de l'influence de Constantin. Il y a souvent une chose que les gens ne connaissent pas, ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils vont à la messe le dimanche, le jour du Dieu soleil. On continue donc d'observer le dimanche. Et le jour de la fête Dieu, si vous avez vu cette fête du catholicisme, il y a une procession au cours de laquelle un prêtre marche sous un baldaquin et il tient devant son visage l'ostensoir. L'ostensoir, un petit miroir monté sur un manche doré, entouré de rayons de soleil dorés. Et lorsque vous demandez aux ecclésiastiques ce qu'il représente, la réponse vient, ils vous diront que c'est le Christ lui-même, que c'est la présence réelle du Christ, et dans ce cas, un objet qui représente le Dieu soleil, un faux Christ, une idole physique, ce qui est formellement interdit par le premier et par le deuxième commandement de la loi de Dieu, du décalogue, les 10 commandements. Alors j'avais brièvement évoqué l'antisémitisme du pouvoir romain précédemment. Revenons un instant sur cette question cruciale, qui est d'ailleurs redevenue d'actualité récemment, ces derniers mois. Très tôt dans l'histoire de l'ère chrétienne, en particulier pendant la période post-apostolique, donc après les apôtres de l'Église de Dieu, la présence accrue de l'antisémitisme a joué un rôle clé dans l'adoption du dimanche comme jour de culte, comme je vous l'avais expliqué. Rappelez-vous, il fut décidé lors du concile de Laodicée en 365 que les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là, carrément, honorant plutôt le jour du Seigneur et, si possible, se reposer comme des chrétiens. Donc, est-ce bien le jour du Seigneur ? On nous dit parfois que Christ est ressuscité le dimanche. Mais non, c'est faux. Le premier jour de la semaine, tel que nous le lisons, il était déjà ressuscité. Et comme il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la tombe, nous savons qu'en cette année-là, en l'an 31 de notre ère, tel que la Bible le prouve, Christ a été exécuté un mercredi, peu avant le coucher du soleil. Il était donc ressuscité. Il est donc ressuscité le jour du sabbat, peu avant le coucher du soleil, peu avant la fin du sabbat. Donc Christ n'est même pas ressuscité un dimanche, pendant le dimanche. Il était déjà ressuscité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le fait d'être anathème ? Rappelez-vous, il fut décidé lors du concile de Laodicée en 365 que les chrétiens ne doivent pas judaïser. Et il nous est dit que s'ils s'en trouvaient à judaïser, qu'ils soient déclarés anathèmes par rapport au Christ. Alors, quelle est la signification de ce mot ? En pratique, observer le sabbat le samedi revenait donc à judaïser, et cela passait pour une faute très grave, un anathème, c'est-à-dire une apostasie, une renonciation à la foi primitive. Donc c'est quand même les rôles inversés quand on y réfléchit. En d'autres termes, à l'époque, vous pouviez vous retrouver condamné à la peine capitale, carrément, la peine de mort, par le pouvoir civil impérial romain, tout simplement parce que vous observiez ce que Dieu avait demandé. Donc c'était le choix de l'époque, la persécution dans la foi. Les gens subissaient la persécution. Je rappelle simplement ici les propos hallucinants de l'empereur Constantin, rapportés par Eusèbe de Césarée. En 325, à Nicée, il aurait déclaré « Il a semblé indigne qu'en célébrant cette fête si sainte, la Pâque, nous suivions la pratique des Juifs, n'ayant rien en commun avec, dit-il, la détestable foule des Juifs. » Alors, si cela, ce n'est pas de l'antisémitisme pur et simple, j'attends que l'on m'en donne une meilleure définition. Et à l'époque, les docteurs catholiques romains ne voulaient donc plus rien avoir en commun avec les Juifs. Ils souhaitaient avoir un autre jour de repos, un autre jour de culte. Ils ont donc choisi le dimanche, le jour du soleil. Comme cela, au moins, ils pratiqueraient leur religion séparément des autres chrétiens. Et depuis, rien n'a changé. Dans Marc, chapitre 7, nous lisons un passage important, une déclaration du Christ concernant les commandements d'homme. Marc, chapitre 7, versets 7 à 8. Marc, chapitre 7. « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Verset 8. « Vous abandonnez le commandement de Dieu, dit-il aux pharisiens, et vous observez la tradition des hommes. » C'est exactement ce qui se passe dans le cas de Constantin et de la foi romaine. Il leur dit encore, verset 9, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Tous ceux qui s'efforcent honnêtement de baser leur christianisme sur les enseignements de Christ et des apôtres devraient savoir ce qu'il est advenu du jour du sabbat de Dieu le samedi. Et ils devraient bien sûr se demander ensuite s'ils suivent effectivement Christ ou s'ils se conforment aux traditions des hommes qui mettent à mal la doctrine de Dieu, qui malmènent les commandements divins. En examinant le christianisme traditionnel, et je veux parler en particulier du catholicisme et du protestantisme, nous voyons une multitude de jours religieux considérés comme sacrés. Et on peut dire que parmi eux, le jour qui est probablement le plus estimé par presque toutes les confessions chrétiennes, eh bien c'est le dimanche. Mais ces dernières années, on entend d'autres idées, il y a d'autres rhétoriques qui font florès dans le christianisme traditionnel à ce sujet. On le lit dans des débats controversés, sur les forums religieux notamment. Certains disent qu'il n'existe tout simplement pas de temps saint ou de jour réservé au repos ou au culte, mais que les chrétiens seraient seulement tenus de se reposer en Christ. D'autres pensent que chaque jour, en fait, est saint et constitue un sabbat pour Dieu. Voilà les réponses qui nous sont données. Selon ce point de vue, Dieu ne considérerait donc plus le septième jour comme sacré. Tiens donc, un jour qu'il a pourtant spécialement institué pour l'humanité. C'est son jour, c'est sa propriété. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, nous dit Jésus dans Marc chapitre 2, verset 27. Marc 2, 27. Le sabbat est un délice, c'est un bienfait spécialement accordé par Dieu ce jour-là. Mais sans doute pour attirer plus de fidèles, sans doute les grandes églises ont eu tendance à offrir une plus grande variété d'heures de culte depuis, afin de les rendre plus pratiques pour les emplois du temps, chargés de tout un chacun. Ainsi, dans certains groupes professant le christianisme, les gens peuvent aller à l'église pratiquement tous les jours, le dimanche ou bien le mercredi soir ou encore le vendredi soir, selon les us et les coutumes, ou même le samedi ou à tout autre moment où des services de culte sont proposés par les autorités ecclésiastiques. Mais aujourd'hui, plusieurs années après la pandémie de 2020, on constate que beaucoup de gens qui venaient auparavant régulièrement aux services religieux sembleraient ne plus revenir à l'église en personne, et quel que soit le jour de la semaine. Et finalement, naviguer dans toutes ces idées diverses et confuses au sujet du jour du repos, est-ce que c'est ce que Dieu voulait nous voir faire ? Que dit Dieu dans la Bible à ce sujet ? Que dit la Bible sur le moment approprié, sur la manière de faire une pause pour adorer Dieu, tout en nous reposant de nos travaux ? Nous travaillons toute la semaine. Il y a un jour par semaine dans lequel Dieu avait prévu que nous pouvions enfin laisser ces choses de côté et nous consacrer à notre relation avec lui, pour en faire de cette journée un délice. La Bible dit-elle vraiment que chaque jour, ou n'importe quel jour, de notre choix serait maintenant un tel jour de sainte convocation et de sabbat? Que disent les Écritures au sujet du repos du sabbat? La fondation du christianisme revient à Jésus-Christ, une fois de plus. C'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu, la parole de vérité. Et c'est là que nous trouvons les réponses à ces questions tout à fait naturelles. Tout à fait naturelles, des questions qu'il est bon de se poser. Comment l'observance du dimanche, comment l'observance de n'importe quel jour ou d'aucun jour, comment ces observances diverses et variées se présentent-elles sous la lumière révélatrice des Écritures? Eh bien, les réponses à toutes ces questions sont dans la Bible, et dans quelques points simples, je voudrais les rappeler maintenant, si vous le voulez bien. Premièrement, premier point, premier principe, au tout début de l'humanité, le Créateur, Dieu, s'est reposé le septième jour de son œuvre. Genèse chapitre 2, verset 2, au tout début de la Bible, dit ceci. Cela vaut le coup de relire ce passage. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au septième jour, le septième jour, son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Il n'y avait pas encore de juifs à l'époque. C'était bien avant le déluge, c'était au moment de la création. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dès le commencement de l'humanité, Dieu a mis à part le jour du repos, le jour du sabbat, comme jour saint et sacré. Deuxième point, Dieu a ordonné l'observance du sabbat du septième jour dans les 10 commandements. Et le quatrième commandement identifie clairement le sabbat du septième jour comme une loi de Dieu. Dans Exode, chapitre 20, comme vous le savez tous, Exode chapitre 20, et le verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui se trouve dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il se reposait le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » » Étant donné que les 10 commandements sont rappelés, confirmés à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, la conclusion logique, c'est que le quatrième de ces commandements est toujours en vigueur, comme les autres. Il n'est pas aboli, exactement comme Jésus l'a confirmé dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 19, il dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, c'est ce que Constantin a fait, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et comme l'apôtre Paul le rappelle et le confirme lui aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, et je lirai dans la version Amiot et Tamisié, où il dit ceci, « Ce qui compte, c'est d'observer les commandements de Dieu. » Voilà ce que disent les apôtres. Voilà ce que dit Paul. Donc, Paul confirme ce que Christ a dit. Et puis, troisième point, troisième constat, Jésus s'est reposé et a enseigné le jour du sabbat du septième jour. Il allait à la synagogue le jour du sabbat, à la synagogue, et dans Luc chapitre 4, verset 16, en effet, Luc chapitre 4, verset 16, nous lisons ces mots, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, c'est là qu'il a passé son enfance, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, c'est le jour pendant lequel la synagogue est ouverte, il se leva pour faire la lecture. » La concordance exhaustive de Strong définit le mot grec traduit par « coutume » comme quelque chose de prescrit par l'habitude ou prescrit par la loi. La façon de vivre de Jésus était donc d'adorer Dieu le jour du sabbat. Il adorait son Père le jour du sabbat. C'était sa coutume, c'était son habitude, c'était sa pratique religieuse, de par son statut de juif, descendant d'Israël, de descendance royale, par sa mère Marie et par son père adoptif Joseph, descendant du roi David, lui aussi, fils de David. Et donc Jésus-Christ, fils de David et fils de Dieu, le Messie, le Fils oint de l'Éternel, fidèle dans son observance des 10 commandements, édité par lui pour nous tous, pour toute l'humanité au mont Sinaï. C'est lui qui, au mont Sinaï, était déjà le rocher d'Israël. Il était celui qui deviendrait Jésus, celui que Moïse a vu dans le buisson ardent, déjà. Si nous arrivons à comprendre que Jésus nous a bien laissé son exemple pour que nous agissions de même, pourquoi, dès lors, continuer à pratiquer des choses qui se sont éloignées de cet exemple de Christ? Une fois de plus, nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons laisser les traditions des hommes qui offensent les traditions de Dieu, comme nous l'avons vu. Il nous faut revenir à la loi de Dieu, aux fondamentaux de Dieu. Ce n'est pas être légaliste que de décider de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir ou de ne pas commettre d'adultère. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'observance du sabbat. Ce n'est pas être légaliste que d'observer le sabbat. Et c'est précisément ce que Christ a dit de faire, en citant le prophète Ésaïe. « Ésaïe, dit-il aux pharisiens, a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Des commandements d'hommes. C'est exactement ce que Constantin a mis en exergue et c'est ce qu'il a forcé dans ses décisions politiques. Il voulait que des commandements d'hommes prévalent au-dessus de la loi de Dieu, qu'il ne connaissait pas. Des rajouts imposés par une autorité ecclésiastique centrale quelconque. De quel droit ? Jésus continue en disant « Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. » Grave erreur, terrible erreur, un péché d'orgueil et une apostasie. Il leur dit encore « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » les pharisiens ne voulaient pas revenir aux fondamentaux. Et de fait, leur religion était devenue anathème aux yeux de Dieu, une apostasie, une remise en cause des instructions de Dieu. Nous constatons la même chose de nos jours. Et même depuis des siècles, quand nous voyons l'immense majorité de ceux qui se disent chrétiens et qui décident de refuser de revenir à ces fondamentaux de Jésus. Peut-être parfois, même d'ailleurs, ne sont-ils pas conscients de ces choses. Soit par ignorance, donc, soit par antisémitisme inavoué, et parfois même par les deux. Le sabbat, on nous dit, mais c'est réservé aux Juifs. Ce n'est pas pour les chrétiens. Non, le sabbat a été créé, encore une fois, pour toute l'humanité. Comme nous l'avons vu dès le commencement, les lois du Créateur de l'humanité ont été prévues pour toute l'humanité. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est vrai qu'il y a eu le peuple élu d'Israël, dont descend le peuple juif. Comme disait le général de Gaulle, un peuple d'élite, un peuple sûr de lui-même et dominateur. Mais au début, rappelez-vous, le peuple juif n'était même pas un peuple. Tout au plus, un rassemblement d'esclaves en Égypte. Et c'est Dieu qui, dit-il, en a fait un peuple, en a fait une nation, un peuple d'élite, comme disait Charles de Gaulle. Une nation. Dieu voulait une nation qui serve d'exemple. Mais serve d'exemple à qui? Eh bien, à toute l'humanité. À toute l'humanité. Enfin, soyons logiques à la fin. Regardons les choses en face. Établissons la vérité. Reconnaissons la vérité écrite de Dieu, sans ignorance et sans négligence. Dans ma prime jeunesse, quelques années après avoir été enfant de cœur, puis un adolescent allant à la messe le dimanche, j'ai compris que Jésus avait une norme, qu'il avait une pratique d'adoration différente des miennes. Et j'ai compris qu'ayant atteint ma majorité, mon indépendance, il était temps pour moi de reconsidérer mes pratiques et d'adopter celles du Christ. En étudiant la vie de Jésus et son ministère sur terre, que voyons-nous? Que voyons-nous dans le cas de l'optique des pharisiens sur le sabbat? Nous apprenons que les pharisiens ont constamment accusé Jésus d'avoir violé le sabbat. Mais si, comme certains le prétendent, Jésus avait mis fin à l'observance du sabbat, de sa propre autorité, les pharisiens l'auraient su, ils l'auraient appris. Or, ils n'ont jamais accusé Jésus d'essayer d'abolir le sabbat. Jamais. Pourquoi? Et parce que Jésus n'a jamais aboli le sabbat. Il n'a jamais aboli les autres commandements de Dieu. Il a même d'ailleurs dit qu'il n'était pas venu pour les détruire. C'est lui-même qui les a proclamés dans l'Ancien Testament, devant son peuple, au désert. Personne n'a jamais vu le Père. Donc, qui est celui que Moïse a vu? C'est celui qui est révélé dans Jean, la parole, qui était Dieu avec Dieu. C'était celui qui deviendrait Dieu, le Fils de l'homme. Ici, devant les pharisiens, Jésus fait valoir qu'il est le maître même du sabbat. Comment est-ce possible? Ou encore, selon la Bible Martin, le Seigneur même du sabbat. Jésus est le Seigneur du sabbat, comme nous le lisons dans Marc chapitre 2, verset 28. Personne ne peut dire cela s'il n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est pas Dieu lui-même. Quand Jésus dit que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, en fait, la question n'est pas de savoir si le sabbat est important, s'il est secondaire, s'il est obligatoire ou non obligatoire. Cette question a déjà été réglée. C'est un commandement de Dieu. Il est donc important, le sabbat, et il est obligatoire. Il n'y a pas possibilité de le contourner. Il est là et il doit être observé, tout simplement. De surcroît, Christ avait déjà dit qu'il n'était pas venu pour abolir les commandements, comme je le disais, mais qu'il était venu pour les accomplir, pour les porter à leur paroxysme, pour les porter à leur étendue spirituelle complète. En disant que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, Jésus confirmait que lui seul était détenteur de l'autorité, du droit de décider comment le sabbat devait être observé, et non pas si le sabbat devait être observé ou non. Ce n'est pas le sujet. Les apôtres suivaient en toute chose l'exemple de Christ. Lisons ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Jean écrit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme il a marché lui-même. Autrement dit, il faut devenir les imitateurs de Christ. Il faut faire tout ce qu'il a fait. Si nous constatons que Jésus avait une norme et une pratique de culte différente des nôtres aujourd'hui, ne serait-il pas sage de reconsidérer nos pratiques et de reconsidérer le jour de notre venue à la congrégation et avec qui nous devons nous rassembler pour adorer Dieu. Il nous faut calquer nos voies sur celles de notre Seigneur. Pourquoi observer un jour différent? Et puis, quatrième point, ceci nous amène directement à ceci. Les apôtres et l'Église primitive du Nouveau Testament observaient le sabbat, eux aussi. Donc, nous avons vu que Jésus observait le sabbat, il faisait ses choses le jour du sabbat, il se reposait et il allait à la synagogue, donc dans la congrégation de ses disciples, et il observait donc ces choses, et les apôtres ont fait exactement la même chose, et de même toute l'Église de Dieu, l'Église primitive du Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 13, verset 14, nous lisons que Paul et ses compagnons observaient le sabbat dans les synagogues. Même chose. Reportons-nous à Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Et allons au verset 14 à 16. Actes chapitre 13, versets 14 à 16. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant : Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Pardon, je lisais dans le chapitre 14. Alors, chapitre 13. Versets 14 à 16, de Perge, ils poursuivirent leur route, arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : Hommes frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. Excusez-moi. Donc, le verset 44 rapporte ensuite ceci. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Alors, notez-le bien, Paul a prêché à la fois aux Juifs et aux païens. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi Paul n'a-t-il pas pris les païens à part le jour suivant, c'est-à-dire le jour du dimanche, en leur disant qu'il continuerait sa prédication le lendemain? Les gens qui n'étaient pas juifs, qui voulaient devenir chrétiens, ils étaient plus faciles à convaincre si le dimanche était devenu le nouveau jour. Non. Non, il ne leur a pas dit cela. Non seulement il ne leur a pas dit, mais il leur a dit de revenir la semaine suivante, c'est-à-dire le jour du sabbat. Le sabbat de l'apôtre Paul n'était autre que celui de Jésus, celui que Jésus avait pour habitude d'observer, le sabbat du septième jour. Ne devait-il donc pas être de même, pas en être de même pour nous tous. Bien évidemment. Nous devons tous, en tant que chrétiens, observer la loi, observer le sabbat du septième jour, observer ce que Dieu nous a demandé de faire. Et puis enfin, cinquième point, les Écritures confirment effectivement que le sabbat sera bel et bien observé pendant les 1000 ans de règne du Christ sur la terre. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 23, Dieu déclare à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et je rappelle pour mémoire que le contexte du chapitre 66, c'est la gloire de la Jérusalem future. Quand la paix coule comme un fleuve, verset 12, ce n'est pas la gloire du temple d'Hérode, sous la domination éprouvante de l'Empire romain. Non, c'est le temps du rassemblement des nations. Verset 18, de toute langue venant à Jérusalem, c'est la gloire du millénium, le règne du Christ sur la terre, une époque future que nul n'a encore jamais vue. C'est un temps futur qui verra l'observance du sabbat et de la loi de Dieu. Si ces choses se produiront en ce jour-là, alors quelle formidable opportunité que de pouvoir comprendre dès aujourd'hui que nous devons le faire maintenant, avec joie, avec une grande anticipation de cette époque merveilleuse encore à venir. L'Église n'appartient pas à un homme, l'Église n'appartient pas à Constantin, elle n'appartenait pas à Constantin, elle n'appartient pas à un pape, à un empereur, elle appartient à Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il en est le chef, il est le capitaine de notre salut et nous lui obéissons. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de sabbat et je vous dis à bientôt.